Chapitre 10. Bien que Nicole lui eût affirmé que le Nouvel Éden pouvait accueillir ses nouveaux occupants, le commandant Macmillan refusa d'autoriser le débarquement des passagers et de l'équipage avant de s'être assuré qu'aucun danger ne les guettait. Après des entretiens interminables avec les responsables de l'ASI restés sur Terre, il envoya dans Rama un groupe dirigé par Dimitri Ulanov et chargé d'obtenir des informations complémentaires. L'officier des sciences de la vie de la Pinta, un Hollandais nommé Darl van Ross, en faisait partie, de même que Kenji Watanabe et deux soldats. Les instructions du médecin ne prêtaient pas à interprétation. Il devait examiner tous les membres de la famille Wakefield et certifier de leur appartenance à l'espèce humaine. Il avait également pour mission d'étudier les biotes et de dresser la liste de leurs caractéristiques non biologiques. Tout se déroula sans incident, même si Cathy fit preuve d'une mauvaise volonté évidente lorsque cet homme voulut l'examiner. Richard suggéra de faire disséquer un Lincoln par un Einstein qui expliquerait le fonctionnement de ses sous-systèmes. Ulanov en fut très impressionné. Deux jours plus tard, les passagers de la Pinta entreprenaient de transférer leurs biens dans Rama. De nombreux biotes aidèrent à ce déménagement qui dura près de 72 heures. Mais où s'installeraient-ils? Ils prirent une décision qui aurait des conséquences importantes pour l'avenir de la colonie et emménagèrent dans le village du sud-est, là où vivaient les Wakefield. Seuls Max Puckett et d'autres fermiers s'établirent ailleurs sur les terres agricoles de la partie nord du Nouvel Éden. Les Watanabe jetèrent leur dévolu sur la maison voisine de celle des Wakefield, qui était entre-temps devenue leurs amis. Le premier soir que Kenji et Nai passèrent dans leur nouveau foyer, les Wakefield vinrent les inviter à dîner. « Nous pourrions passer dans le séjour », suggéra Nicole à la fin du repas. « Les lieux sont plus confortables. Les Lincoln débarrasseront la table et feront la vaisselle. » Les Watanabe suivirent Richard dans la pièce voisine, où ils furent rejoints par le reste de la famille. 5 jours s'étaient écoulés depuis l'entrée du groupe d'exploration dans Rama. « 5 journées fantastiques !» se dit Kenji en s'asseyant. « Et cette soirée est presque ce qui me surprend le plus. Ce qu'ont vécu ces gens est tout simplement incroyable. »
« J'ai été sidéré par ce que vous nous avez raconté, » déclarait Naï. J'ai tant de questions à vous poser que je ne sais par quoi commencer. La créature que vous appelez l'aigle me fascine. Est-ce un des Hittis qui ont créé le point nodal et Rama ?»
Ce fut Nicole qui se chargea de répondre.
« Non, c'est également un biote. Allons croire tout au moins. Mais nous n'avons aucune raison de mettre sa parole en doute. Il a été fabriqué par l'intelligence nodale pour servir d'intermédiaire avec nous. Mais alors, qui a construit le point nodal ?»«
C'est une information du troisième degré, » fit Richard en souriant. Kenji et Nai rirent. Leurs hôtes leur avaient expliqué ce système de classification des renseignements.
Il nous est difficile de concevoir que des entités puissent être si évoluées, que leurs machines sont plus intelligentes que nous,
dit Kenji.
J'aimerais aborder des sujets plus terre à terre,
intervint Cathy.
Où sont les jeunes de mon âge? Je n'ai pas dû voir plus de 2 garçons de moins de 25 ans.
Ils sont pour la plupart à bord de la Niña, répondit Kenji. Ce vaisseau nous rejoindra dans environ 3 semaines avec le gros des colons. La Pinta a été envoyée en avant-garde pour s'assurer de la véracité du message que nous avions capté.
Que veut dire véracité?
S'enquit Cathy.
Vérité et précision, expliqua Nicole. C'était un des termes favoris de ton grand-père. Un homme qui ne tolérait pas qu'un enfant se permette d'interrompre les conversations des adultes. Nous avons de nombreux sujets à aborder et rien ne vous oblige à rester avec nous.
« J'ai envie d'aller voir les lumières, » déclara Benji. « Tu m'accompagnes, Ali ?»
Sa sœur se leva et le prit par la main. Ils leur souhaitèrent une bonne nuit, puis sortirent, bientôt imités par Patrick et Cathy, qui déclara
On va voir si on ne trouve rien d'intéressant à faire. Bonne nuit, monsieur et madame Watanabe. Maman, nous serons de retour dans 2 heures.
Nicole secoua la tête sitôt après leur départ.
Depuis l'arrivée de la Pinta, Cathy ne dort presque plus. Elle voudrait parler à tout le monde.
Après avoir remis de l'ordre dans la cuisine, leur Lincoln était allé se poster près de la porte.
« Souhaitez-vous boire quelque chose ?»
demanda Nicole à ses invités.
« Nous n'avons pas de boisson comparable au jus de fruits que vous avez apporté de la terre, mais Link vous prépare des cocktails de synthèse qui ne sont pas dénués d'intérêt. »
« Non merci, »
dit Kenji en secouant la tête.
« Vous avez satisfait notre curiosité en nous narrant votre odyssée, mais je présume que vous avez des questions à nous poser. Après tout, 45 années se sont écoulées depuis votre départ. »«
45 ans, »
pensa Nicole.
« Est-ce possible ? Geneviève sera sous peu une sexagénaire. »
Elle se rappela quand elle avait vu son père et sa fille aînée pour la dernière fois. Cela se passait à l'aéroport de Paris et Geneviève l'avait étreinte avec force en pleurant.
« Mon père est mort. Ma fille est devenue une femme âgée, peut-être une grand-mère, pendant que j'explorais le temps et l'espace, le pays des merveilles. »
Elle se reprit et regagna le présent.
« Est-ce que ça va ?»
lui demanda Kenji. Elle hocha la tête et le regarda. Il lui rappelait le cosmonaute Shigeru Takagishi.
Il est comme lui, dévoré par la curiosité. Cet homme est digne de confiance et il a rencontré Geneviève il y a seulement quelques années. Nous avons eu droit à un résumé succinct de l'histoire de la Terre,
dit finalement Nicole.
Mais en ce qui concerne nos familles, nous ne savons que ce que vous avez dit le premier soir.
Cet après-midi, j'ai consulté les notes prises quand je comptais écrire un livre sur l'expédition Newton,
déclara Kenji.
J'ai oublié de vous préciser qu'avec l'âge, Geneviève est devenue le portrait craché de son père. Regardez, j'ai retrouvé 2 photographies datant de mon séjour à Beauvois.
Nicole fut bouleversée par ces clichés de Geneviève et de son mari. Ses mains étaient tremblantes. Des larmes brouillaient sa vision.
« Tu ne peux savoir à quel point tu m'as manqué. Je ne sais ce que je donnerais pour te tenir dans mes bras, ne serait-ce qu'un instant. »
Richard se pencha par-dessus son épaule pour regarder les épreuves. Il est exact qu'elle ressemble au prince, mais surtout à sa mère.
« Sa gentillesse m'a étonné, » précisa Kenji. Elle avait souffert du battage organisé par les médias autour de sa naissance, mais elle a répondu avec beaucoup de patience à toutes mes questions. J'avais alors l'intention de parler longuement d'elle dans ce livre dont le projet n'a jamais abouti.
Quels membres de l'expédition Newton sont encore de ce monde ? Demanda Richard.
Il ne reste que Sabatini, Tabori et Yamanaka. Le docteur David Brown a été terrassé par une attaque et est décédé 6 mois plus tard, en d'étranges circonstances. En 2208, je crois. L'amiral Heyman est mort d'un cancer en 2214. Victime du syndrome du retour sur Terre, découvert chez plusieurs cosmonautes au XXIe siècle, Irina Turgenev a perdu la tête et s'est finalement suicidée en 2211.
Avant votre arrivée, Richard et les enfants ignoraient qui était le père de Geneviève,
dit Nicole.
Henri pouvait avoir des soupçons, mais aucune certitude. J'ai désormais conscience que j'aurais dû dire tout cela au mien. Et...
Elle prit le mouchoir que Nye lui tendait et s'essuya les yeux.
Veuillez me pardonner. Ces photos m'ont ému.
Tant dans Ramadeu qu'au point nodal, ma femme a toujours été pour nous un exemple de stabilité, déclara Richard.
Il est rare de la voir. Changeons de sujet, d'accord ?
L'interrompit Nicole en posant les épreuves.
Parlons plutôt des cosmonautes de Newton et de Francesca Sabatini en particulier. A-t-elle obtenu ce qu'elle voulait, la gloire et la richesse ?
On peut le dire, répondit Kenji. Je n'étais pas encore venu au monde quand elle a atteint le faîte de sa célébrité, mais c'est toujours un personnage éminent.
Des journalistes de la télévision l'ont récemment interviewé pour connaître son point de vue sur l'importance de la seconde colonisation de Mars. Nicole se pencha vers lui pour murmurer
« Je n'en ai pas parlé pendant le dîner, mais je suis convaincu qu'elle et Brown ont drogué Borzov afin qu'il ait tous les symptômes d'une crise d'appendicite, et que c'est à dessein qu'elle m'a abandonné dans ce puits de New York. Cette femme était dénuée de scrupules. »
En 2208, peu avant sa mort, le docteur Brown a recouvré par instant sa lucidité. Il a avoué à un journaliste qu'il avait une part de responsabilité dans la mort de Borzov et accusé Francesca de votre disparition. Naturellement, la signora Sabatini s'est moquée des divagations d'un homme qui n'avait plus toute sa raison et a attaqué la revue en justice. Cela lui a rapporté 100 millions de marques de dommages et intérêts, les excuses officielles du rédacteur en chef et le renvoi de l'auteur de l'article.
Elle gagne donc toujours.
Commenta Nicole. J'ai failli exhumer cette histoire il y a 3 ans, quand je cherchais des informations pour mon livre. Un quart de siècle s'était écoulé et les archives de la mission Newton appartenaient au domaine public. J'ai trouvé vos cubes de données, dont un qu'avait dû vous remettre Henry, et j'ai obtenu la conviction que Brown avait dit vrai.
Qu'en a-t-il résulté ?
Je suis allé voir Francesca dans son palais de Sorrente, juste avant de renoncer à écrire cet ouvrage. Il hésita.
Dois-je en dire plus ?
Se demanda-t-il. Il regarda sa femme.
Non, ce n'est ni le moment ni le lieu.
Désolé, Richard.
Ils étaient dans leur chambre, et son compagnon allait s'endormir lorsqu'elle s'était adressée à lui.
Hein ? Tu as dit quelque chose ?
Je regrette vraiment,
fit-elle en prenant sa main dans la sienne.
J'aurais dû te parler d'Henri il y a des années.
Tu m'en veux ?
Pourquoi t'en voudrais-je ?
J'ai été surpris, pour ne pas dire sidéré, mais certainement pas irrité. Tu avais d'excellentes raisons de garder le secret. En outre, cela s'est passé sur Terre, dans une vie antérieure. Si tu me l'avais appris si tôt après notre rencontre, j'y aurais peut-être accordé de l'importance, mais plus à présent.
Elle se pencha vers lui et lui donna un baiser.
Je t'aime, tu sais.
Je t'aime moi aussi,
lui répondit-il. Ils firent l'amour pour la première fois depuis leur débarquement de la Pinta et Nai s'endormit peu après. Kenji resta éveillé. Il pensait à leur soirée avec les Wakefield et était hanté par des souvenirs de Francesca Sabatini.
La plus belle septuagénaire qu'il m'ait été donné de rencontrer,
se dit-il.
Une femme dont la vie a été extraordinaire.
Il n'aurait pu oublier l'après-midi d'été où il était arrivé à la gare de Sorrente. Un taxi électrique l'avait ensuite conduit au Palazzo Sabatini. Francesca habitait une grande demeure de 20 chambres, surplombant la baie de Naples, une résidence qui avait appartenu à un prince au XVIIe siècle. Du cabinet de travail où il attendait la signora Sabatini, Kenji voyait un funiculaire gravir et descendre une falaise pour transporter des baigneurs jusqu'au flot bleu de la baie. Francesca Sabatini le fit attendre une demi-heure et manifesta aussitôt son impatience d'en finir au plus vite. Elle déclara qu'elle n'avait accepté de le recevoir que parce qu'il lui avait été chaudement recommandé par son éditeur, avant de préciser, dans un anglais irréprochable, que tout ce qui se rapportait à l'expédition l'ennuyait désormais à mourir. Son intérêt pour la conversation fut ravivé lorsqu'il précisa qu'il disposait de nouvelles informations, les fichiers de l'ordinateur personnel de Nicole transmis par télémétrie vers la Terre. Francesca se tut, et l'écouta établir un parallèle entre ses notes et la confession que le docteur David Brown avait faite à un journaliste en 2208.
« Je vous ai sous-estimé, »
déclara-t-elle en souriant. Kenji venait de lui demander si elle ne trouvait pas ces coïncidences troublantes. Sans répondre à ses questions, elle se leva et l'invita à passer la soirée avec elle. Au crépuscule,
Kenji reçut un message dans sa chambre. On l'informait que le dîner serait servi à 20h30 et que la cravate était de rigueur. Un robot vint le chercher pour le conduire dans une magnifique salle à manger, aux parois couvertes de fresques et de tapisseries. Francesca était déjà présente, debout à côté d'un petit serviteur cybernétique.
« Konbanwa, Watanabe-san, »
dit-elle, tout en lui tendant une flûte de champagne.
« Des travaux de rénovation nous condamnent à prendre l'apéritif ici. »
Francesca était très belle. Un gros peigne sculpté remontait ses cheveux blonds sur son crâne, une rivière de diamants parait son cou, et elle avait un énorme saphir en sautoir. Les plis de sa robe bustier blanche mettaient en valeur les courbes de son corps, toujours irréprochable. Kenji ne pouvait croire qu'elle avait 70 ans. Elle lui expliqua qu'elle avait improvisé un dîner en son honneur, puis le prit par la main pour le guider vers les tapisseries murales.
« Connaissez-vous Aubusson ?»
demanda-t-elle. Il avoua son ignorance et elle lui fit un long exposé sur l'évolution de cet art en Europe. Une demi-heure plus tard, elle s'installait en bout de table. Était également présent un professeur de musique de Naples et son épouse, censée être une actrice, deux footballeurs professionnels, des Apollon Basané, le conservateur des ruines de Pompéi, un homme en début de cinquantaine, une poétesse entre deux âges et deux jeunes femmes d'une beauté à couper le souffle qui prirent place en face et à côté de Kenji. Le fauteuil à l'opposé de Francesca restait inoccupé. Elle murmura quelques mots au maître d'hôtel et 5 minutes plus tard, un vieillard impotent et presque aveugle fut conduit dans la pièce. Kenji reconnut immédiatement Yanos Tabori. Le repas fut succulent. La conversation animée. Chaque mets, servi par des humains et non par des robots, s'accompagnait d'un vin italien particulier. Et tous, même les footballeurs, parlaient anglais. Les convives se passionnaient pour la conquête spatiale et la jeune beauté assise en face de Kenji avait lu son livre consacré à l'exploration de Mars. En fin de soirée, Kenji, alors âgé de 30 ans et célibataire, perdit ses inhibitions. Il était enivré par les vins, les femmes et leurs discussions portant sur l'histoire, la poésie et la musique. Tant qu'ils restèrent à table, Francesca ne fit qu'une seule allusion à l'interview de l'après-midi. Après le dessert et avant le cognac, elle cria à Yanos
« Ce jeune homme possède une imagination débordante. » Il pense avoir trouvé dans les cubes de données de Nicole la confirmation des divagations que David a débitées à ce journaliste peu avant de mourir.
Kenji avait regagné sa chambre depuis 5 ou 10 minutes quand il entendit frapper. Il alla ouvrir la porte sur la jeune Italienne qu'il avait eue en face de lui pendant le dîner. Elle portait un minuscule bikini qui ne cachait presque rien de son corps magnifique, et ce fut en arborant un sourire aguichant qu'elle lui présenta un caleçon de bain.
« Monsieur Watanabe, si vous souhaitez vous joindre à nous, ceci devrait vous convenir. »
Elle avait éveillé un désir qui le contraignit à attendre quelques instants avant d'aller la rejoindre dans le couloir. 3 ans plus tard, dans le lit de cette maison du Nouvel Éden, auprès de la femme qu'il aimait et avait épousée, le souvenir de cette nuit le stimulait encore. Ils avaient pris le funiculaire pour descendre jusqu'à la baie et nager sous le clair de lune. Dans la cabine de bain de la plage, ils avaient ensuite bu, dansé et ri.
Nous étions tous nus moins d'une heure plus tard. La distribution des rôles était évidente. Les footballeurs pour Francesca et les madones pour moi.
Il changea de position en se rappelant l'intensité du plaisir éprouvé et les rires de Francesca lorsqu'elle l'avait découvert à l'aube, couchée entre les deux jeunes femmes. 4 jours plus tard, quand je suis arrivé à New York et que mon éditeur m'a conseillé de renoncer à écrire ce livre, je n'ai émis aucune protestation. Il est probable que j'aurais pris cette décision, même s'il ne me l'avait pas suggérée.